Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
L'épisode d'aujourd'hui va porter sur les livres pour les enfants. En effet, le livre, c'est quelque chose de très très important pour les enfants et on peut en commencer à en offrir, à en montrer, à en présenter aux enfants dès la naissance et ensuite pendant tout le reste de sa vie. Mais le livre, c'est quelque chose de très important qui va développer énormément de choses chez l'enfant, qui va lui permettre de se concentrer, qui va lui permettre de développer son vocabulaire, qui va lui permettre de voyager, qui va lui permettre de mieux connaître la nature, qui va lui permettre de vivre des émotions des autres, qui va lui permettre de partager aussi avec les autres des lectures, avec ses parents, de passer des moments très agréables quand on va lui lire des histoires, mais aussi des moments très agréables tout seul, calmement. Donc le livre, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour ça que j'avais envie de faire un épisode là-dessus pour vous donner quelques conseils. Donc comme je disais, on peut mettre des livres à la disposition des enfants dès la naissance. Donc sachant que leur vision est plus celle pour les contrastes, on peut commencer par des livres en noir et blanc. Donc par exemple, nous, on a écrit un livre qui s'appelle « Mon premier livre en noir et blanc » qui est publié à la librairie des écoles et qui plaît beaucoup aux enfants, où il y a juste sur chaque page des objets ou un visage de parents qui sont faits en noir et blanc, c'est-à-dire où la page est blanche, le dessin est noir ou inversement. Il existe aussi dans le cadre de ces livres des livres de Tana Oban qui sont vraiment très bien faits, que vous pouvez trouver sur internet, sur Amazon, et qui sont très bien faits. Il en existe beaucoup en noir et blanc qui sont très intéressants. Il en existe un aussi qui peut être mis verticalement le long du tapis d'éveil et que les enfants aiment beaucoup parce qu'ils peuvent le regarder et bien fixer leur attention sur les éléments de ce livre. Ensuite, vous allez pouvoir commencer au livre en couleur avec des objets réels assez gros. Donc là aussi, on a écrit un livre, ça s'appelle mon premier livre en couleur, où on présente des objets d'abord aux trois couleurs primaires, mais des vraies fleurs, des vrais fruits, des vraies choses, mais avec les vraies couleurs, et d'abord avec les couleurs primaires, puis les couleurs secondaires, et ensuite avec des paysages, parce que le but du livre aussi, c'est de transmettre la beauté de la nature, la beauté des couleurs, les détails, etc. Donc, il en existe d'autres, hein, des livres avec des objets vraiment très gros et en couleur, encore une fois, pour intéresser l'enfant, pour fixer son attention. Et puis aussi, ce sont des partages que vous prendrez l'enfant sur vos genoux et puis vous lui décrirez les livres et ça va être un moment très agréable à passer avec l'enfant. Ensuite, il existe aussi des livres en tissu qui sont vraiment bien car l'enfant, vous savez qu'il met beaucoup à la bouche petit et donc ça, ils peuvent les mettre à la bouche. Ça fait une texture aussi différente, ils sont agréables à toucher. Et puis, on peut en trouver sur de nombreux thèmes, sur les couleurs, sur les formes géométriques. Il y en a aussi avec des moyens d'ouverture, de fermeture. Et il y a vraiment des personnes qui font des livres en tissu qui sont vraiment très, très beaux. Moi, je vous conseille une boutique qui s'appelle Popeline & Co, où les livres sont vraiment en tissu, sont vraiment très, très beaux. Je pense qu'elle en fait de différentes tailles, mais ils sont vraiment très jolis. Ensuite, je peux vous conseiller des livres aussi pour les petits, qu'ils aiment bien. Il y en a un, il s'appelle « Beaucoup de beaux bébés ». En fait, ce sont des bébés pour chaque page et à la fin, c'est un miroir. Et les enfants, les bébés aiment bien voir d'autres bébés. Et à la fin, ils peuvent se regarder dans le livre. Ensuite, il y a un livre aussi que les enfants aiment beaucoup qui s'appelle « L'art des bébés », qui est aussi très, très joli et très, très agréable. Ensuite, vous pourrez leur présenter les livres musicaux qui sont un peu sur tous les thèmes où ces livres sont vraiment, les enfants aiment beaucoup, beaucoup ces livres parce qu'en plus, ils sont autonomes pour pouvoir obtenir le son. En fait, ils appuient avec leurs petits doigts sur un petit bouton et à chaque page, il y a un son. Donc, ça peut être sur le thème des animaux, les bébés animaux, les oiseaux, les bruits de la nature. Ensuite, il y a tous les styles de musique possibles, imaginables. Ensuite, il y a aussi les musiques des différents pays, donc ça permet aussi d'approcher d'autres cultures. Il y a des chansons, il y a même des chansons anciennes de chanteurs, etc. Et ça, il y a vraiment une collection extraordinaire dans ces livres musicaux. Ensuite, je conseille aussi les livres tactiles, où il y a des éléments à toucher avec différentes textures. Les enfants aiment beaucoup aussi toucher ces différentes textures, ils sont très agréables. Ça peut être sur les thèmes des animaux, mais ça peut être aussi sur les thèmes de la nature, et ils sont très agréables. Il y a aussi un livre avec des odeurs différentes, bon ça c'est un petit peu moyen, mais il y a certains enfants qui aiment bien. Ensuite, vous allez passer aux imagiers. Puisque l'enfant, c'est là où vous allez présenter des mots, hein, vous allez présenter des mots sur des thèmes très très nombreux. Souvent, on commence par les animaux familiers, par les animaux sauvages, il y a les animaux du froid. Il y a beaucoup beaucoup d'imagiers qui sont vraiment très très bien faits. Moi, j'aime beaucoup les imagiers avec un volet à soulever. C'est un monsieur qui s'appelle François Delebecq qui les fait et ils sont vraiment très beaux. Il y a les animaux sauvages, il y a les jouets, il y a les animaux de la ferme, il y a les légumes. Ils sont sur énormément de thèmes et les enfants aiment bien parce qu'en fait, on soulève un volet et en dessous, il y a la photo réelle de l'objet. Et ça, c'est vraiment, ou de l'animal, c'est vraiment très, très intéressant pour l'enfant. Ensuite, dans le cadre des livres tactiles, il y a aussi des livres qui s'appellent les livres où on touche, où te caches-tu la licorne, où te caches-tu petit lapin. Ça, c'est des livres où l'enfant soulève et découvre des choses. Ça, ce sont des livres aussi que les enfants aiment beaucoup parce qu'il y a une certaine interactivité et c'est très important. Et plus l'enfant va être actif, plus il va apprécier ses livres. Ensuite, il y a aussi tout un débat avec la pédagogie Montessori, donc que j'aime beaucoup, qui dit que Maria Montessori ne voulait pas que on fasse qu'on raconte jusqu'à 6 ans des livres avec des trop d'imaginaire, trop de choses pas vraies en fait. Donc souvent dans les classes Montessori, il n'y a que des livres sur des choses vraies. Personnellement, moi, je n'ai pas cet avis sur la question, parce que je trouve que les enfants ont aujourd'hui tout à fait la capacité de comprendre que leur lapin ne parle pas, que leur chien ne fait pas de la peinture, etc. Et puis, je pense que, au contraire, développer l'imagination de l'enfant, c'est quelque chose qui va leur apporter beaucoup en termes de créativité, en termes d'adaptabilité, en termes de se dire aussi que dans la vie, on peut trouver les solutions parce qu'on peut imaginer. Donc, pour moi, le développement de l'imagination est vraiment extrêmement important. Il est peut-être important, bien sûr, de ne pas partir dans n'importe quel sens, n'importe où. Mais je pense qu'on peut leur raconter des histoires. Moi, je l'ai vécu et avec mes enfants. Et franchement, ils aimaient beaucoup. Ils étaient totalement capables de faire la part du vrai et la part du faux. D'autant qu'il existe des activités que l'on peut faire par ailleurs, en parallèle à ces livres, qui s'appellent « Vivant, non vivant », où vous prenez des images de choses vivantes, par exemple des plantes, des animaux, des hommes, et à côté de ça, vous mettez des images de choses non vivantes, comme leur peluche, comme une chaise, une table, et vous leur faites trier d'un côté le vivant, d'un côté le non vivant. Et de cette manière, ça vous permet d'avoir un débat sur ce sujet, et justement, de faire en sorte qu'ils comprennent que parfois on fait parler leur peluche, mais qu'en fait, elle n'est pas vraiment vivante, hein, puisqu'il y a les critères du fait d'être vivant auxquels la peluche ne répond pas. Voilà, donc ça, je trouve ce débat donc reste toujours d'actualité, mais moi qui fais du Montessori, que j'adapte aux enfants d'aujourd'hui, que j'adapte aussi à ce que j'ai vécu avec mes élèves, avec mes enfants, etc., je pense qu'on peut leur raconter des histoires un peu extraordinaires. Donc ensuite, il y a des livres aussi qui sont avec des histoires faciles, petit à petit pour enfants. Il y a des livres qui s'appellent d'une personne qui s'appelle Jeanne HB, A-S-H-B-E, qui s'appelle « On ne peut pas, il a fait peur, coucou ». Et les enfants l'aiment bien parce que c'est l'histoire d'un petit enfant qui fait des tas de choses, mais des histoires qui pourraient leur arriver à eux aussi. Ensuite, il y a des livres qui sont très importants qui s'appellent « Les chercher trouve ». Donc ça, il y en a un peu pour tous les âges. C'est des livres où on va chercher des petits objets parmi sur toute une page. Et là, c'est pareil, il y a des thèmes différents. Et ça, on peut les faire ensemble et c'est vraiment très amusant. Et ça développe énormément le sens de l'observation de l'enfant. Alors pour les tout-petits, c'est des objets qui sont un peu gros, qui sont souvent en bas de la page, et puis on doit les chercher dans toute la page. Et puis pour plus l'enfant grandit, plus ça va être tout petit. Tout le monde connaît les « Où est Charlie ?», on cherche Charlie partout. Mais ça existe pour les enfants petits, et ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Ça leur permet aussi de développer leur sens de l'observation, leur sens visuel, la concentration, et puis leur mémoire, parce que bien souvent, ils retiennent l'emplacement de l'objet que l'on cherche, et donc comme ça, ils le trouvent plus vite. Ensuite, il y a des livres qui sont bien aussi, c'est des livres où l'enfant se sent acteur, par exemple « Au bain petit lapin »,« Au lit petit lapin » de Jörg Mühle, M-U-H-L-E. Donc ça, vraiment, vraiment, les enfants aiment beaucoup parce qu'ils sont acteurs de ce qu'ils font. Ensuite, c'est important d'avoir une collection aussi de livres sur les saisons, parce qu'on va parler ensuite de la constitution de la bibliothèque pour l'enfant. Et il est important de mettre en place dans la bibliothèque, à chaque saison, des livres différents. Donc il en existe de très jolis, il y en a qui ont de Sophie Couche Arrière, qui sont vraiment très beaux. On vous mettra toutes ces références sur le blog de cette pause éducative. Et il y a aussi ceux qui sont très beaux de Rotrot Suzanne Berner. Elle en a fait sur chaque saison, mais elle en fait aussi où elle regroupe les saisons. Moi, je suis vraiment plus pour avoir des livres différents par saison. Parce que c'est important vraiment de les mettre en relation avec tout ce qui va se passer à la saison qu'ils vont vivre, mais indépendamment. Ensuite, il ne faudra pas que vous oubliez aussi des livres sur les fêtes qui sont célébrées au fur et à mesure, des livres sur ce qui se passe dans la nature au moment précis. Ça, c'est très important aussi. Puis, lorsque l'enfant grandit, mais ça, c'est vraiment très variable d'un enfant à l'autre. Moi, ma petite fille, qui déjà depuis 18 mois, elle aime beaucoup qu'on lui raconte des livres. Il y a des livres que j'aime beaucoup. C'est les livres de Kalinours, l'histoire de cet ours. En général, ils plaisent beaucoup. Et aussi, La famille souris, j'aime beaucoup aussi. Parce que les dessins sont très jolis. Il y a énormément de détails. Bon, les histoires sont jolies, mais les dessins sont très jolis. Et il y a aussi une édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'édition Ed Avril. Et là, les livres sont très jolis parce que ce sont des choses qui se passent dans la nature. Et la nature est très bien dessinée. En général, c'est souvent des animaux. Mais c'est vraiment très, très joli. Donc ça, je le mettrai aussi dans les notes pour que vous les retrouviez. Moi aussi, des histoires que je trouve encore très jolies aujourd'hui et que je recommande et que je vois mes petits-enfants beaucoup aimer. Ce sont la collection des Martine, la collection des Caroline. Et vraiment, les enfants les aiment beaucoup. Les dessins sont jolis. Les histoires sont très jolies aussi. Et je vois que ma petite-fille, qui a 4 ans, vraiment, elle accroche beaucoup. Elle aime beaucoup, beaucoup ses livres et elle a beaucoup de plaisir à les lire. Donc, c'est important donc de constituer une bibliothèque pour les enfants. Donc, cette bibliothèque, c'est pas la peine de. En principe, c'est pas adapté de mettre les livres dans une caisse où l'enfant va piocher comme ça et où les livres sont pas bien rangés. L'idéal, c'est de mettre les livres avec la face devant, visible par l'enfant, pour qu'il ait envie de le prendre. Donc, cette bibliothèque, elle doit être constituée de pas un trop grand nombre de livres, il faut pas qu'il y ait trop de choix, mais en revanche il faut que ça tourne, il faut que les livres tournent. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction des saisons, en fonction des fêtes, en fonction quand on est dans une classe ou même à la maison, des thèmes que l'on étudie, en fonction c'est bien aussi d'avoir des jolis livres d'art, d'avoir un joli livre d'art. C'est bien aussi d'avoir des livres d'histoire. Bon, souvent, ils aiment qu'on leur raconte les mêmes histoires. Donc là, vous pouvez laisser ces livres, parce que la répétition à cet âge-là, vous savez, est très importante. Et c'est bien aussi qu'il y ait quelques livres que vous aimez bien en tant qu'adulte, si vous avez des passions, par exemple, je sais pas, si vous aimez les papillons, un livre sur les collections de papillons, si vous aimez les voitures, un livre sur les jolies voitures, si vous aimez les avions, les trains, parce que par l'intermédiaire du livre, c'est important que vous partagiez aussi avec votre enfant les choses que vous aimez, que vous en parliez ensemble, même s'il est petit, c'est pas grave, c'est important de partager ce que vous aimez avec votre enfant. Ensuite, il est très important de demander à l'enfant de prendre soin du livre. Donc ça, vraiment, il faut leur montrer comment on prend soin d'un livre, et ça assez petit, même le plus jeune possible, qu'un livre, ça ne se déchire pas, qu'un livre, évidemment, ils vont les mettre à la bouche, hein, ça c'est inévitable. Et voilà, vous n'allez pas lui dire non 10 fois, parce qu'en fait, il faut qu'il ait quand même du plaisir à toucher les livres, à les avoir dans les mains, à les regarder. Et donc, apprenez à prendre soin du livre, mais évidemment sans trop de rigidité, hein. Mais on déchire pas un livre, on le jette pas un livre, et puis faites en sorte que si vous avez cette petite bibliothèque, ils remettent les livres à leur place et correctement. Donc parfois, il existe chez Ikea juste une petite bande de bois que l'on peut accrocher au mur et sur lesquels on va poser les livres avec la face devant. Moi, j'ai mis ça dans certaines de nos écoles et c'est vraiment pas cher et c'est important pour l'enfant de voir les livres et de les avoir à sa portée, de pouvoir les prendre quand il en a envie. Alors, j'en profite pour parler des livres et donc pour parler aussi de ces moments de pause qu'il est bien de faire figurer dans la routine de la journée. On avait parlé déjà des routines, de l'importance de la routine. Je pense que si l'enfant ne fait plus la sieste, ou même s'il la fait mais qu'il ne dort pas beaucoup, il est quand même très important d'instaurer ce temps calme, peut-être après le déjeuner, où on détermine un certain temps, où l'enfant justement va être dans son lit ou par terre sur un tapis, et justement où il va pouvoir prendre un temps pour lire un livre. C'est vraiment important que le livre fasse partie de la routine de la journée, que vraiment ce soit quelque chose qui soit important dans la journée. Et ce temps calme, donc on peut lui mettre à disposition des livres, il faut qu'il les regarde en silence pour respecter, bon, s'il y a des frères et sœurs ou si les parents sont là aussi ou les adultes. Et ce moment est important pour justement regarder des livres. On détermine un temps donné, peut-être qu'on peut mettre un timer ou peut-être on peut montrer sur la pendule que de ce moment jusqu'à cette heure-là, en fait, on est là pour lire des livres calmement et qu'on ne va pas déranger, on ne dérange pas pas, on reste là. Et c'est important, je pense, que ce moment de temps calme soit respecté aussi par les adultes qui sont présents. Et justement, en aussi lisant un livre, que le livre fait partie de la maison et qu'on pose les téléphones portables, on pose l'ordinateur et on prend un temps de lecture. En effet, on remarque que l'inégalité en arrivant à l'école maternelle, elle est due justement au manque de vocabulaire de certains enfants. Et souvent, c'est parce que le livre fait pas partie de la maison, puisque le livre va permettre énormément le développement du vocabulaire. Donc, pensez vraiment à installer ces routines de livres. Alors, on peut aussi instaurer un temps de lecture ensemble avant le coucher, par exemple. C'est un moment qui va être calme. C'est différent du temps calme d'après le repas, puisque le temps calme, c'est tout seul. Et le temps avant le repas, ça va être un temps que l'on va passer ensemble, où vous allez lui raconter une histoire, où vous allez lui montrer les images d'un livre, en lui donnant le vocabulaire, en lui donnant les mots. Et ce moment est aussi très important. Il est important de l'installer dans la routine de la journée, où là, on va passer un moment ensemble. Et c'est la différence du temps calme. Et évidemment, faut instaurer ce moment, mais il faut que ce soit un moment de plaisir. Il faut que ce soit quelque chose qui va être dans la joie, dans le bonheur, pas quelque chose où vous avez l'impression que c'est une corvée parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre. C'est un moment qui doit vraiment être installé comme un moment de joie. De même que dans la classe, c'est important aussi de prévoir un coin bibliothèque, dans la crèche aussi, chez l'assistante maternelle aussi. Donc un coin bibliothèque, ça c'est un coin où on met des coussins sur un tapis, où on met des livres, où on peut mettre un petit canapé, et où là, les enfants, en limitant le nombre d'enfants, vont pouvoir s'installer tranquillement pour regarder un livre, calmement aussi. Donc ce coin bibliothèque est vraiment très important, il doit être organisé comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des livres qui vont tourner au fur et à mesure, mais c'est un moment très important, de même que dans la classe, il est vraiment très important, mais ça je pense que tout le monde le fait, d'instaurer ce moment où on va raconter une histoire aux enfants, et où justement donc ce moment va être un moment très calme, où tous les enfants vont avoir besoin de se taire, d'écouter. Évidemment, il va falloir que l'adulte ait préparé. L'histoire, il faut qu'on se l'ait raconté un grand nombre de fois parce qu'il faut pas avoir besoin de lire le livre. Il faut pouvoir montrer le livre aux enfants pour qu'ils voient les images au fur et à mesure. Donc, le livre, il faut le savoir par cœur pour pouvoir le montrer aux enfants. Donc, raconter un livre à un ensemble d'enfants, ça se prépare, hein, c'est important d'apprendre par cœur, de savoir le lire avec aisance, de mettre le ton, et que les enfants justement soient pris par cette lecture. Donc le moment de lecture aussi, le coin lecture va être limité en nombre de personnes, mais c'est quand même important que l'enfant prenne conscience que la lecture, ça peut être un moment où on va partager des émotions, on va avoir peur ensemble, on va rire ensemble, on va être passionné par un pays, par une histoire, par une aventure. Et donc c'est important que l'enfant ressente tout ce que le livre va apporter, tout ce que l'histoire va raconter. Et ce n'est pas parce que l'enfant va commencer à apprendre à lire qu'il faudra arrêter de leur raconter des histoires, parce que ça n'a rien à voir le fait de lire tout seul que le fait que l'on vous raconte une histoire à plusieurs ou qu'on raconte même à tout seul. Mais ce moment où les parents sont avec l'enfant, où c'est un moment où on est réunis, où on coupe tous les téléphones, tous les ordinateurs, tout ce qui pourrait nous déranger, et on se consacre à ce moment de lecture ensemble. Et n'oubliez pas aussi l'intérêt aussi d'aller dans des bibliothèques, hein. Les bibliothèques accueillent beaucoup les enfants, ils ont souvent un très très agréable coin livre, il y a souvent des conteuses qui viennent raconter des histoires, et ça c'est important aussi d'y emmener les enfants, de voir qu'un livre, on peut l'emprunter, on le ramène chez soi, on le lit avec soin et on le ramène et on reprend un autre. Les enfants aiment vraiment beaucoup faire ça, avec les classes aussi, ou les crèches, on peut prendre des rendez-vous, et il y a des conteuses qui racontent des histoires aux enfants, et c'est vraiment des moments très importants. Donc voilà, donc je tenais vraiment à parler des livres, parce que c'est vraiment ça aussi qui va déclencher cet amour de la lecture, qui va apporter tellement aux enfants, puis aux adultes, donc à l'adulte de demain, et je pense que le livre permet de ressentir tellement de choses, de vivre plein de vie, de s'évader aussi dans des moments difficiles aussi peut-être, de pouvoir vivre d'autres choses, que c'est vraiment important de transmettre cet amour des livres. Donc après, rapidement, vous pouvez, dès que l'enfant va commencer un petit peu à lire, parce que c'est ça aussi qui va lui donner envie de lire, n'oubliez pas aussi, quand vous lisez un livre, de temps en temps, de passer votre doigt sous les mots, parce que c'est là que l'enfant va comprendre aussi que ce qui est lu, que ce qui est écrit peut être lu, que ce qui est lu aussi est écrit. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça que moi, je conseille dans les classes d'instaurer ce moment des nouvelles où c'est un moment de regroupement où chaque enfant ou les enfants qui le souhaitent disent quelque chose d'important et l'éducateur ou l'enseignant écrit. Et après, on le relit. Parce que c'est vraiment très important que l'enfant comprenne que ce qui se dit s'écrit et que ce qui s'écrit se lit. Donc vraiment, pour moi, les livres, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Faites une jolie bibliothèque, pas besoin d'énormément de livres. Allez en bibliothèque aussi pour emprunter des livres et partager ces moments de lecture ensemble. Et soyez un modèle aussi en lisant beaucoup. Plus les enfants vous verront lire, plus ils auront envie de lire. Aidez-les à bien apprendre à lire pour que la lecture ne soit pas une corvée, mais soit quelque chose d'agréable et de facile.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.